Chronique citoyenne avec Sébastien Saint-François.
Sébastien Saint-François, bonjour.
Salut Charles.
Bonjour, comment vas-tu?
Ça va bien toi-même?
Ben oui, tout à fait. Vas-y donc, pardon un petit peu encore. Je me semble que je t'entends pas fort.
Tu m'entends pas fort?
Ouais, vas-y donc.
Ben pourtant, je suis là.
Bon, je vais monter ton piton, finalement.
Je suis bel et bien là.
Bon, as-tu vu l'éclipse cette semaine?
Ben oui. Je voulais en glisser un mot parce qu'on a quand même vécu quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Un phénomène naturel, mais je trouve que cette journée-là, on a parlé que de ça, puis je trouve que ça a fait du bien.
Oui.
Tout le monde était sur la même longueur d'onde. On pensait plus à nos problèmes. On était fixé sur l'éclipse.
Je me suis dit la même chose, moi aussi.
On parle souvent d'une éclipse médiatique, mais là, c'était vraiment une éclipse médiatique. On ne parlait que de ça. Mais en effet, ça a été... Écoute, je me suis déplacé à mon chalet en Estrie parce qu'on a eu droit, nous, à presque 3 minutes 30 secondes de totalité.
Oui, c'est vrai.
Ça a été extraordinaire. Extraordinaire, vraiment. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'à peine quelques secondes avant la totalité, j'étais comme déçu, je me disais, ben coudonc, c'est ça. Puis là, tout d'un coup, pouf, c'est devenu sombre.
Et froid.
Et le spectacle d'une vie, ça a été vraiment, vraiment extraordinaire.
Oui, tout à fait.
Puis, écoute, ça a été la frénésie un peu partout à Montréal. Écoute, des bouchons comme on n'a pas vu sur la 10 partout. Ça a été quelque chose de mémorable, je pense, qu'on a vécu tous ensemble.
Je l'ai dit à quelques reprises, là, moi, on s'installait, ma conjointe était en télétravail, donc c'était le fun pour ça. On a installé les chaises dehors, puis j'avais les lunettes, puis j'ai été très candide dans toute cette affaire-là, un peu niaiseux même. J'ai mis les lunettes, puis je dis juste pour voir comment on voyait. Puis j'ai constaté, le ciel était encore bleu, il était autour de 3 heures. J'ai constaté que le show était déjà commencé. On voyait dans ma tête, c'était ça durait une minute et quelque chose, puis on voyait l'affaire. Mais non, c'était déjà, la course de la lune était commencée, là. C'était fabuleux.
Ça a commencé vers 2h15, ça a commencé, puis ça finit vers quasiment 5h15, là, tout le phénomène au complet. Non, c'est vraiment quelque chose, quand on pense, puis ce qui est formidable, ce qui dépasse pas l'entendement, mais c'est de savoir qu'on est capable de prédire ça à la seconde près. C'est quelque chose
tout à fait. Nous autres, on avait Pierre Maillot, on a cette chance-là. On a un astronome, je dis toujours, c'est l'astronome amateur le plus professionnel que je connaisse, qui vient commenter. Et un mois à l'avance, il a tout dit ça. Tout ce qui s'est déroulé, il l'avait dit, là.
Puis on connaît les dates et les heures des prochaines éclipses totales et partout pour des siècles à venir. C'est quand
plus
même
grand que nous. On comprenait quelque chose là et sans qu'il y ait de tragédie, parce que des fois, ça, on le comprend par des tragédies, hein, des inondations ou des cyclones ou que sais-je encore.
Ouais.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus jamais, mais celle-là, une belle affaire, c'est plus grand que nous, donc sans faire de vilain jeu de mots, chapeau Monsieur Le Monde.
Oui, en effet.
Ou Madame Le Monde. Ottawa qui injecte 8,1 milliards de dollars sur 5 ans dans la défense.
Oui, donc c'est le bal des milliards depuis des semaines maintenant. Hein. On présente le budget à un petit peu chaque jour. Bon, cette fois-ci, c'est dans la défense, mais on parle de 8,1 milliards sur 5 ans et 73 milliards sur 20 ans. Ça nous donne une idée de l'effort colossal qu'on a à faire en la matière, parce que malgré ces 8,1 milliards-là, on va passer de 1,33% à 1,76% du PIB consacré à la défense d'ici 2029-30. Mmh. Et on sait que l'OTAN nous pousse pour qu'on se rende à 2%. On est en queue de peloton. On n'a pas de plan. On est le seul pays à peu près qui n'a pas de plan d'atteindre du 2%. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. Et c'est beau injecter de l'argent, mais il faut aussi se rappeler qu'il nous manque du monde. Il manquerait 16 000 membres dans les Forces armées canadiennes. Donc, on a beau investir, mais ça prend des gens, du personnel pour manier tout ça. Donc, c'est quand même, c'est un début. Mais c'est un effort colossal qu'on a devant nous. Et puis bon, M. Trudeau annonce ça, mais est-ce que ça sera maintenu? Mettons, si M. Poilievre forme le prochain gouvernement, est-ce qu'on va se mettre à couper là-dedans? Je ne sais pas. C'est sûr que ça ne contraint pas un prochain gouvernement. C'est une intention. On veut atteindre ce montant-là. Reste à voir. Mais ouais. Les enjeux sont colossaux. T'sais, ne pensons qu'à l'article canadien qu'on a à défendre. C'est sûr qu'on a la part des États-Unis là, qui ne vont pas nous laisser... Même si Trump revient à la présidence, je ne pense pas qu'ils vont laisser la Russie nous envahir. Là. Ça serait contre-productif pour utiliser le terme légèrement. Mais quand même, on a tout un effort à faire à ce chapitre-là.
Oui, tout à fait. Donc, dossier à suivre là aussi. Il y a des gens qui disent « attention », puis j'en ai entendu là, qui disent « attention ». Puis c'est pas nécessairement des libéraux de gauche qui disaient « le Canada participe quand même activement à participer à de la formation ». Et ça, c'est jamais compté sur le PIB. On ne parle ici que d'armement, ouais. Alors que les autres pays ne le font pas nécessairement. Le Canada a contribué jusqu'à maintenant à sa façon aussi. Là.
C'est vrai.
Il ne faut pas l'oublier. Donc, ça devrait faire partie du 2%, à mon sens, à moi. On parle ici de Mark Carney à la tête du Parti libéral du Canada un jour, peut-être, à la place de M. Trudeau.
C'est une rumeur qui revient périodiquement. Hein? Oui. Je lisais, je pense que c'est dimanche, j'ai lu un article là-dessus.
Ça fait un an que Patrick Clune en parle.
Ouais, on parle de Mark Carney qui revient dans le décor. Il va prononcer une allocution. Il a prononcé une allocution plutôt lundi soir au Château Laurier et puis donc une semaine avant le budget fédéral. Puis il va prononcer une autre allocution à Toronto le 22 avril. Donc, soit une semaine après le budget. Mark Carney, c'est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada qui était à la tête de la Banque du Canada durant la crise financière de 2008-2009. Et son nom revient périodiquement. Moi, je pense, je ne suis pas un adepte du gouvernement en poste. Je pense que je ne surprends personne en l'affirmant ce matin, mais je pense que M. Carney serait un candidat très intéressant pour le Parti libéral, pas Justin Trudeau, parce que ça redonnerait une crédibilité économique et fiscale au Parti libéral, ce qui manque cruellement en ce moment. Tu sais, on mentionne Mme Freeland parmi les prétendantes au poste de chef du PLC, mais je pense pas que Mme Freeland, même si elle est ministre des Finances, a une grande crédibilité économique, car elle aura participé à l'endettement sans précédent du Canada sous le règne de Justin Trudeau. Alors qu'un Mark Carney, est-ce qu'il est fait pour faire de la politique?
Ça, c'est une autre affaire, parce que tu te souviens de Michael Ignatieff il y a quelques années, tout le monde l'a présenté comme le nouveau Pierre-Éliott Trudeau, ça, le pudding n'a jamais levé. Là.
C'est ce que j'allais dire, M. Ignatieff, donc tout le monde ne jurait que par lui, et puis on sait que ça a été un gros flop en politique. Ça ne veut pas dire que si on est bon dans un secteur, par exemple en économie, qu'on est bon pour faire de la politique. Mais chose certaine, son nom revient. C'est un métier, en effet. Puis on parle notamment qu'il y aura ça sera à voir si M. Carney se présentera, parce qu'il va y avoir une élection partielle dans la région de Toronto pour remplacer Caroline Bennett, l'ex-ministre du gouvernement Trudeau, qui a été nommée ambassadrice au Danemark.
Ouais.
Donc, il va y avoir une partielle, reste à voir si M. Carney va répondre à l'invitation, parce que jusqu'à maintenant, il a toujours décliné. Les occasions politiques se sont présentées. Donc, on dirait qu'il attend son moment, mais
Patrick Lundy m'a dit que des sondages qui ont été faits là, en Ontario, là, justement dans le comté de Mme Bennett, puis dans d'autres comtés, d'ailleurs, celui de Mme Freeland, les libéraux sont à la traîne, puis c'est des endroits, c'est des châteaux forts. Là. Il semblerait Parti vert, c'est pas nécessairement les conservateurs, c'est pas du tout les néo-démocrates, c'est le Parti vert qui reçoit le vote libéral, s'en irait de ce côté-là, là, dans ce comté-là. Peut-être
c'est intéressant que tu mentionnes, donc ça démontre qu'il y a vraiment une écœurantite du gouvernement libéral.
Oui, puis peut-être du ton aussi de la campagne.
Oui, en effet.
Donc, si on ne va pas du côté ni de M. Poilievre, ni de M. Singh, il y a des raisons aussi. Donc, à suivre ça aussi. Puisqu'on en parle, la Banque du Canada, hier, 5 % s'est maintenu, là.
Oui, c'est maintenu et ce qui est très éloquent, c'est quand j'ai vu ça passer à la télé hier soir, une journaliste a posé la question, est-ce qu'on peut espérer une baisse à compter du mois de juin, parce que la prochaine décision sera prise le 5 juin. Monsieur le monsieur McLean longuement hésité avant de répondre oui, c'est possible. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de fatigue. Hein. Il y a une fatigue qui s'installe par rapport à ces attentes de baisse. On les attend de chaque fois, d'annonce en annonce. On dit, bon, peut-être cette fois-ci, et c'est toujours maintenu à 5. On voit que la situation, c'est très délicat. Hein. Puis, il faut aussi prendre en compte la situation aux États-Unis où la Fed maintient son taux. Aux États-Unis, l'économie se porte beaucoup mieux que chez nous. Écoute, c'est surprenant, même la croissance de l'économie et l'inflation qui est repartie à la hausse légèrement. J'ai vu les chiffres, c'est reparti de 3,2 à 3,5 le mois passé. Donc, la situation est encore très tendue. Et c'est sûr que moi, j'ai l'impression que tant que la Fed n'agira pas, la Réserve fédérale aux États-Unis, la Banque du Canada n'agira pas non plus, parce que si nous, on se met à baisser nos taux alors que les États-Unis maintiennent les leurs, ça dévalorise notre dollar parce que ça devient moins intéressant pour les investisseurs d'investir ici. Ça a un effet sur un paquet d'affaires, des importations et tout. Donc, on voit que la situation demeure très, très tendue. Mais je pense qu'il y a une fatigue là, qui s'installe auprès du bassin des emprunteurs qui commencent à en avoir marre, là, qui trouvent qu'ils ont fait leur part et qu'il serait temps qu'il y ait un peu de répit.
Oui, on parlait de renouvellement d'hypothèques, entre autres, là, la semaine dernière, des surprises pour bien des gens. Là.
Oui, des mauvaises surprises. Ouais. C'est des centaines de dollars de plus par mois hein, par rapport à ce qu'ils payaient avant. Puis on sait, bon, ça s'ajoute à l'inflation.
Puis aux salaires qui ne suivent pas tout le temps aussi.
Les salaires qui ne suivent pas le bal, c'est ça. Ça devient difficile.
Oui, on termine ça avec Gaza, 6 mois de guerre déjà, hélas.
Incroyable,
aussi,
hein? Six mois de guerre, on est rendu dans le 7e mois de conflit. Bon, je lisais un article de Boukhar Diouf en fin de semaine. Et puis, tu sais, il faisait une comparaison intéressante avec Trump. T'sais, Netanyahou, là, c'est un gars qui... c'est pas un ange. Hein? Et puis, il a réussi à former son gouvernement. On sait qu'en Israël, c'est toujours des gouvernements de coalition. Puis, il s'est associé à l'extrême droite du pays pour former son gouvernement. Il est de plus en plus contesté, non seulement au sein du pays d'Israël comme tel, mais aussi au sein de la communauté internationale, parce que les gens commencent à trouver que ça n'a pas de bon sens. Là. Ça fait des mois que ça n'a pas de bon sens, mais là, ça fait déjà 6 mois. Monsieur Netanyahou ne lâche pas le morceau. Il dit qu'il va attaquer Rafah. Rappelons-nous qu'au début de la guerre, on avait demandé à tous les Palestiniens de se rendre dans le sud, donc à Rafah, parce qu'on attaquait le nord. Et puis là, Monsieur Netanyahou dit que non, il faut détruire le Hamas. Le Hamas est rendu à Rafah. Mais là, il y a au-dessus d'un million et demi de personnes amassées à Rafah, là, dans des tentes. Ouais. Et là, il veut aller attaquer ça. Ça n'a pas de bon sens quand tu y penses. Puis bon, on parle de famine depuis des semaines et des semaines. C'est pas évident. Je sais pas quand est-ce que ça va finir, cette affaire-là, mais ça n'a pas de bon sens.
J'allais dire presque dans l'indifférence, presque ça, là. Il y a quelque chose.
Ben, écoute, c'est ça qui est la tragédie de la guerre. Hein. Parlons, tu sais, pensons à l'Ukraine. On sait que c'est là, mais bon, ça fait partie du quotidien depuis des mois maintenant. Ouais. Même chose à Gaza, on sait que c'est là, mais tu sais, ça fait partie de notre quotidien. Puis c'est ça qui est dangereux dans des situations de guerre comme ça, c'est qu'on devient pas indifférent, mais insensible à la tragédie qui se déroule dans cette partie de la planète. Et puis, bon, c'est comme, bon, ça fait partie
de... Ça devient comme une habitude de voir, bon, le bulletin de nouvelles, les images sont toujours les mêmes, une tragédie humaine, on comprend, puis à un moment donné, on change de poste, on dit, ah, c'est assez, c'est trop
ça.
Pour moi.
Exactement. C'est ça la tragédie d'une guerre, c'est qu'on vient, qu'on s'y habitue, puis... Alors que les gens qui sont sur le terrain, là,
ils ne tuent pas. Hein? On parlait de l'éclipse, phénomène plus grand que nous. La guerre ne devrait pas, les conflits ne devraient pas être plus grands que nous.
Puis là, malheureusement, ça fait partie de l'histoire humaine hein, depuis longtemps.
Oui, semblait-il.
Faut espérer que ça prenne fin bientôt, parce que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe à Gaza.
Oui, tout à fait.
Même chose pour l'Ukraine, mais bon, ça fait partie du quotidien, comme on dit.
Oui, bien voilà, donc pourvu que ça change et pour le mieux éventuellement, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une issue, qu'il y ait une entente, même si bien des gens disent que c'est impossible.
Est possible si on a de la volonté.
Oui,
hein? On va finir ça sur une note positive.
Merci Sébastien Saint-François, à la semaine prochaine.
Salut, bonne semaine.